Chapitre 29. Un autre plan. La cave aux poutres apparentes de la vagabonde était grande. Pourtant, elle semblait aussi exiguë que la chambre de Tom et Julien. À cause de l'affluence? Non, puisqu'il n'y avait que 5 personnes. En revanche, au-delà du cercle de lumière projeté par une lampe posée sur un tonneau, la plus vaste partie du sous-sol était plongée dans l'obscurité. Et l'allée qui permettait de se déplacer entre le mur et les rangées d'étagères n'était vraiment pas large. Mais ce n'était pas ça qui donnait une sensation d'étouffement.
« J'ai demandé ton aide !»
dit Jolene.
« Pas que tu me passes un nœud coulant autour du cou !»
Après une dizaine de jours au bon soin de maîtresse Annan, en dégustant la délicieuse cuisine d'Enid, la Aes Sedai avait repris du poil de la bête. Sa tenue élimée mise au rebut, elle portait une jolie robe de laine bleue, avec un peu de dentelle au poignet et au col. Dans la lumière vacillante, le visage à demi dans l'ombre, elle semblait furieuse et foudroyait Matt du regard.
« Si quelque chose tourne mal, je serai sans défense !»
Matt refusa de marcher dans cette arnaque-là. On aide quelqu'un par compassion, enfin en gros, et voilà ce qu'on obtient. Très mécontent, il agita la dame sous le nez de la sœur. Alors que la chaîne ondulait comme un serpent d'argent, le collier et le bracelet raclant sur le sol, Jolene remonta l'ourlet de sa robe et recula, pour que l'horrible artefact ne la touche pas. À voir son dégoût, il aurait pu s'agir pour de bon d'une vipère. Matt étudia la dame et se demanda si le collier n'était pas trop grand pour le cou mince de la sœur.
« Maîtresse Annan t'enlèvera le collier dès que nous serons sortis de la ville. Tu lui fais confiance, non ? En te cachant ici, elle risque sa tête. Une fois encore, je te répète que c'est le seul moyen. »
Jolene pointa le menton, obstiné. Agacée, maîtresse Annan marmonna entre ses dents.
« Elle ne veut pas porter ce truc !»
dit Fenn dans le dos de Matt.
« Et si elle ne veut pas ?»
renchérit Blairic.
« Elle ne le portera pas !»
De caractère très différent, les deux champions de Jolene se ressemblaient pourtant comme deux gouttes d'eau sur les autres plans. Avec ses yeux inclinés noirs et son menton pointu, Fenn était un peu plus petit que Blairic, et peut-être un rien plus costaud. Pourtant, ils auraient pu échanger leurs vêtements sans aucun problème. Alors que les longs cheveux noirs de Fenn cascadaient sur ses épaules, ceux de Blairic, beaucoup plus courts, étaient aussi légèrement plus clairs. Originaire du Chiénard, Blairic avait coupé son toupet et laissé pousser ses cheveux afin de passer inaperçu. À l'évidence, il n'aimait pas ça. Fils du Saldaïa, Fenn, lui, semblait ne rien aimer du tout, à part Jolene. À dire vrai, tous les deux l'adoraient. Parlant, bougeant et pensant de la même façon, les deux champions avaient revêtu une tenue d'humble travailleur. Cela dit, seul un aveugle les aurait pris pour une paire d'ouvriers. Le jour, sur ordre de maîtresse Annan, ils travaillaient aux écuries. Pour l'heure, ils regardaient Matt comme des lions furieux qu'une chèvre ait osé les défier en leur montrant ses dents. Mal à l'aise, le jeune flambeur se déplaça en quête d'un endroit où il ne verrait pas les deux hommes. Même du coin de l'œil. Avec eux dans son espace vital, les multiples couteaux qu'il cachait sur lui ne parvenaient pas à le rassurer.
« Jolene Mazza, si tu ne veux pas écouter ce garçon, c'est à moi que tu vas avoir affaire. »
Les poings sur les hanches, Sétal Annan se tourna vers la Aes Sedai.
Je veux que tu retournes dans la Tour Blanche. Et tant pis si je dois faire tout le chemin à pied en te poussant devant moi. Une balade qui te donnera peut-être l'occasion de me montrer ce que vaut une Aes Sedai. Ou au moins de me prouver que tu es adulte. Jusque-là, j'ai vu une novice qui pleurniche dans son lit ou pique des colères.
Jolene écarquilla les yeux, comme si elle n'arrivait pas à en croire ses oreilles. Matt douta lui aussi des siennes. En principe, les aubergistes ne sautaient pas à la gorge des Aes Sedai. Fenn grogna, et Blairic marmonna quelques propos peu amènes.
« Tu n'auras pas besoin d'aller bien loin après avoir passé les portes, »
rappela Matt à Sétal. Une diversion, pour leur épargner une nouvelle explosion de Jolene.
« Pense seulement à garder la capuche de ton manteau relevé. »
En plus du reste, Matt allait devoir trouver un de ses manteaux sophistiqués. Mais si Jolene était capable de voler un Adam, un manteau ne devrait pas être un obstacle infranchissable.
« Si tu le fais... « Les gardes ne verront qu'une soule d'âme comme les autres. Tu reviendras ici quelques heures plus tard, ni vu ni connu, sauf si tu t'entêtes à porter ton couteau de mariage. »
Matt rit de sa propre plaisanterie, mais ce ne fut pas communicatif.
« Tu me vois rester dans une ville où les femmes sont traitées comme des chiennes parce qu'elles savent canaliser ?»
Maîtresse Annan va se camper devant Matt.
« Et penses-tu que je partirai sans ma famille ?»
Sous le regard de feu de l'aubergiste, Matt se sentit tout petit. Pour être franc, il ne s'était jamais posé la question. Bien entendu, il aurait été ravi que toutes les damanes soient libres, mais pourquoi était-ce si important pour Sétal ? Quoi qu'il en soit, ça l'était. Discrètement, La main de l'aubergiste glissa jusqu'au manche du couteau, accroché à sa ceinture. À Eboudard, les gens étaient très susceptibles, et sur ce plan-là, cet hall n'avait rien à envier aux natifs.
« J'ai négocié la vente de la vagabonde 2 jours après l'arrivée des Saint-Chaniens. Un délai qui m'a permis de les juger. J'aurais dû laisser l'établissement à Lidel et Lonide depuis un moment. Mais il n'apprécierait pas de trouver une Aes Sedai dans sa cave. Quand vous serez prêt à partir, je lui donnerai les clés et je filerai avec vous. Lidel s'impatiente.
« Et mon or ?»
pensa Matt indigné. Lidel le laissera-t-il récupérer le trésor caché sous le sol des cuisines ? Pourtant, ce fut autre chose qui paniqua Matt. La famille de maîtresse Anan ? Allait-il devoir chevaucher avec les fils, les filles, les conjoints, les petits-enfants, les cousins, les cousines, les oncles et les tantes ? Une ribambelle de gens. Non, une horde. Si Sétal n'était pas du coin, son mari y avait une multitude de parents. Blaéric flanqua une grande claque dans le dos du jeune flambeur, qui en fut ébranlé jusqu'aux oreilles. Il dévoila ses dents, espérant que le champion prendrait ça pour un sourire reconnaissant. Comme de juste, Blaéric ne broncha pas. Champion de malheur, maudit Aes Sedai et fichus aubergiste.
Maîtresse Anan, dans mon plan, il n'y a pas de place pour un régiment.
Matt n'avait pas encore mentionné la ménagerie de Luca. Après tout, il restait un risque qu'il ne parvienne pas à convaincre le bonhomme. Et plus il aurait de gens avec lui, moins ce serait facile.
Quand nous serons sortis, tu devrais revenir ici. Et si tu veux vraiment partir, embarque sur un des bateaux de pêche de ton mari. Après avoir attendu quelques jours, si tu veux un conseil. 10 par exemple. Quand les Seanchaniens découvriront que 2 damans ont filé, ils contrôleront de près les sorties.
2 ?
Grogna Joline.
Teslin et qui d'autre ?
Matt fit la grimace. Il n'avait pas délibérément lâché cette information. Avec Joline, il avait sur les bras une Aes Sedai irascible, colérique et capricieuse. Tout ce qui pouvait l'inciter à croire que l'évasion serait plus difficile que prévu risquait de l'inciter à pondre un plan farfelu de son cru. Une ânerie qui ruinerait ses propres projets. Si elle tentait de fuir seule, Joline se ferait intercepter et elle se battrait. Avec le pouvoir, bien entendu. Dès que les Seanchaniens sauraient qu'une Aes Sedai s'était cachée en ville, en quelque sorte sous leur nez, ils intensifieraient les recherches de Marad Daman. En d'autres termes, ça signifierait des patrouilles en plus de celles qui traquaient déjà le tueur fou. Et un contrôle encore renforcé des portes.
Teslin et... Edessina Adzedin,
répondit enfin Matt.
Edessina,
répéta Joline, pensive.
J'ai entendu dire que...
Quoi qu'elle ait entendu, la sœur décida de le garder pour elle.
Les Seanchaniens n'étaient-ils d'autres Aes Sedai ? Si Teslin s'évade, je refuse de laisser ne serait-ce qu'une autre sœur entre leurs mains.
Matt dut faire un effort pour ne pas s'étrangler de nouveau. Corélique et irascible, certes. Mais cette femme était aussi une lionne, capable d'en remontrer à Fenn et à Blaéric.
Crois-moi, sauf si elle veut s'y incruster. Je ne laisserai pas une seule Aes Sedai au chenil.
Joline restait capricieuse. Du coup, elle pouvait insister pour qu'il libère les 2 autres Aes Sedai, dont Pourra la convertit. Matt n'aurait jamais dû s'acoquiner avec des sœurs. Pour le savoir, il n'avait pas besoin de ses antiques souvenirs. Les siens suffisaient, merci beaucoup. D'un index d'acier, Fenn taquina l'omoplate gauche du jeune flambeur.
« Ne lui parle pas sur ce ton, » lança-t-il. « Et n'oublie pas à qui tu t'adresses, »
ajouta Blaéric, en torturant l'omoplate droite du pauvre Matt. Joline exprima sa réprobation, mais sans trop insister. Matt sentit quelque chose se nouer dans sa nuque, à peu près à l'endroit où un bourreau aurait frappé. Si les Aes Sedai jouaient volontiers de toutes les subtilités du langage, elle ne s'attendait pas à ce qu'on fasse de même avec elle. Matt se tourna vers l'aubergiste.
C'est Al. Tu vois bien qu'un bateau de pêche serait la meilleure solution. C'est possible,
coupa maîtresse Anan.
L'ennui, c'est que Jasper est parti il y a 3 jours avec ses 10 bateaux et tous nos parents. S'il faisait l'erreur de revenir, la guilde aurait 2 mots à lui dire, vu qu'il n'a pas le droit de prendre des passagers. Tout ce petit monde accostera en Iliane et m'y attendra. Je n'ai pas l'intention d'aller jusqu'à Tarvalon, en fait.
Cette fois, Matt ne put s'empêcher de faire la moue. Au cas où ça raterait avec Luca, il avait compté se rabattre sur la flotte de pêche de Jasper Anan. Une option de secours dangereuse, cependant, voire mortelle. Surtout de nuit, les Soudam auraient sûrement voulu examiner à la loupe tout ordre expédiant des damans sur une embarcation de pêche. Malgré tout, il gardait depuis toujours cette possibilité en réserve. Eh bien, il allait devoir forcer la main à Luca, en lui tordant le bras s'il fallait.
« Tu as laissé tes parents naviguer en cette saison ?»
s'écria Joline, incrédule.
« Au moment des pires tempêtes !»
Le dos tourné à l'Aes Sedai, Maîtresse Anan redressa fièrement la tête. Mais ce n'était pas d'elle-même qu'elle était fière.
S'il le fallait, Jasper serait capable de naviguer au milieu des terribles Semaros de la mer des tempêtes. Je lui fais confiance autant que tu te fies à tes champions, sœur Verte. Et peut-être plus.
Soudain pensive, Jolene saisit la lampe et la souleva pour éclairer le visage de l'aubergiste.
Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Parfois, quand j'entends ta voix sans voir tes traits, elle me semble familière.
Au lieu de répondre, Sétal prit la dame Amat et joua avec le bracelet. Tout l'artefact était conçu de manière qu'on ne voit pas comment le collier et le bracelet pouvaient s'ouvrir.
« On devrait procéder à l'essai tout de suite, »
dit-elle.
« L'essai ?»
répéta Matt. Sétal le foudroya du regard.
« N'importe quelle femme ne peut pas être une soule dame. Tu devrais le savoir, jeune seigneur. J'espère pouvoir jouer ce rôle, mais autant ne pas attendre le dernier moment pour le découvrir. »
Énervé par le bracelet qui refusait de s'ouvrir, Sétal le secoua un peu.
« Oh, tu sais comment il s'ouvre ? Je ne vois même pas l'articulation. Oui, je sais. »
répondit Matt d'une petite voix. La seule fois qu'il avait parlé de Souldam et de Daman avec des Séanchaniens, il avait été prudemment en question de l'art de les utiliser dans une bataille. À part ça, le jeune homme n'avait jamais réfléchi au protocole de recrutement des Souldam. Ses anciens souvenirs l'incitant à tout mesurer à l'aune de performances guerrières, il avait réfléchi à la façon de les combattre. Mais en choisir une, voilà qui le dépassait.
Et mieux vaut essayer tout de suite.
Au lieu de « par la lumière ». Les fermoirs ne posèrent aucun problème à Matt, ceux du bracelet encore moins que les autres. L'astuce était d'appuyer aux bons endroits et avec la bonne force. Un jeu d'enfant, réalisable avec une seule main. En un éclair, le bracelet s'ouvrit en cliquetant. Le collier résista un peu plus et l'obligea à utiliser les deux mains. Les posant des deux côtés de la fixation de la chaîne, Matt appuya, puis fit un mouvement rotatif et tira sans relâcher sa pression. Rien d'apparent n'arriva, mais quand il tourna dans l'autre sens, avec un claquement plus fort que celui du bracelet. Au palais, malgré l'aide apportée par Jolene, qui avait vu fonctionner l'artefact, trouver le truc lui avait pris plus d'une heure. Ici, personne ne le félicita, ni ne sembla remarquer qu'il avait réussi quelque chose qui n'était pas à la portée de tout le monde. Après avoir mis le bracelet, Sétal tendit le collier à Jolene, qui le regarda avec un profond dégoût.
« Tu veux t'enfuir ou non ?»
demanda l'aubergiste. À contre-cœur, Jolene se redressa et tendit le cou. Sétal lui mit alors le collier, qui se révéla parfaitement à sa taille. Jolene eut l'ombre d'un rictus. Dans son dos, Matt sentit l'attention des deux champions. Lui-même anxieux, il retint son souffle. Côte à côte, les deux femmes firent un pas, passant près de lui. Alors qu'il inspirait à fond, Jolene plissa le front, perplexe. Puis Sétal et elle firent un autre pas. L'Aes Sedai cria, s'écroula et fut prise de spasmes. Incapable de parler, elle se roula en boule, les bras, les jambes et même les doigts recroquevillés comme des serres. Sétal s'agenouilla, les mains volant vers le collier. Mais Blaeric et Fenn furent plus rapides. Cependant, leur comportement fut des plus étranges. Blaeric remit debout la pauvre Jolene, qui gémissait doucement, et la serra contre sa poitrine en lui massant le cou. Pourquoi pas au fond ? Fenn, lui, fit courir ses doigts sur les bras de la sœur. Le collier s'ouvrit et Sétal, soulagé, s'assit sur les talons. Jolene, continuant à trembler et à gémir, ses champions s'échinèrent à l'amasser, comme si elle avait des crampes, en lançant des regards noirs à Matt, à croire qu'il était responsable de tout ça. Alors que son plan génial partait en lambeaux devant ses yeux, le jeune flambeur se ficha comme d'une guigne des deux types. Et maintenant, que faire ? Par où commencer ? Et pour ne rien arranger, le retour de Tailin approchait. S'il n'était pas parti d'ici là. En passant près de Sétal, il lui tapota l'épaule.
Dis-lui que nous trouverons autre chose.
Souffla-t-il. Oui, mais quoi ? Visiblement, pour se servir d'un Adam, il fallait avoir les aptitudes d'une Souldam. L'aubergiste le rattrapa au pied de l'escalier, dans la pénombre, alors qu'il récupérait son chapeau et son manteau. Un modèle en laine, sans broderie. Des chichis qui ne lui manqueraient pas, sans même parler de la dentelle.
Tu as un autre plan ?
Demanda Sétal. Sans lumière, Matt ne distinguait pas son visage, mais le bracelet brillait à son poignet.
« J'ai toujours un plan de rechange, »
mentit le jeune flambeur, en libérant le poignet de son ami.
« Au moins, tu n'auras plus besoin de risquer ta tête. Dès que je t'aurai débarrassé de Jolene, tu pourras aller rejoindre ton mari. »
Sétal se contenta d'un grognement. Elle savait qu'il n'avait pas l'ombre d'un plan, devina Matt. Soucieux d'éviter la salle commune bourrée de Séanchaniens, il sortit par les cuisines, traversa la cour des écuries et déboula sur l'esplanade Molara. Avec ses habits sans fantaisie, il n'aurait certainement pas attiré l'attention des clients de cette halle. À son arrivée, il avait d'ailleurs pris pour un type effectuant une course au service de l'aubergiste. Mais parmi ces gens, il avait remarqué 3 soules dames, dont 2 avec une damane. Craignant de plus en plus de devoir abandonner Tesline et Dessina à leur sort, Matt n'avait aucune envie de voir des damanes. Mais il avait seulement promis d'essayer, nom de nom. Alors que le soleil tiédasse était encore haut dans le ciel, le vent marin gagna en force, annonçant de la pluie. À part une patrouille de gardes de la mort, des humains, pas des ogiers, tout le monde, sur l'esplanade, se hâtait pour être à l'intérieur avant qu'il commence à pleuvoir. Quand Matt passa à côté de la statue de Narienne, la reine au sein nu, une main se posa sur son épaule.
« Sans tes vêtements excentriques, j'ai failli ne pas te reconnaître, Matt Cotton. »
Le jeune flambeur se retourna pour découvrir le Sojin ilianien qu'il avait aperçu le jour où Jolene était avec fracas réapparue dans sa vie. Une coïncidence qui n'avait rien de plaisant. De plus, avec son crâne à moitié rasé et sa barbe, le type avait l'air bizarre. En manche de chemise, il frissonnait.
« On se connaît ?»
demanda Matt. L'homme sourit.
« Et comment, mon garçon ? Naguère te fait une traversée mémorable sur mon bateau. Avec Shadar Logoth et des Trollocs à un bout et à l'autre, un Myrdra à les ponts blancs en flammes. Bail Domon, maître Cotton, tu me remets à présent ?»«
Oui, ça me revient. »
Ce n'était pas tout à fait faux. Dans la tête de Matt, ce voyage était un vague souvenir, plein de trous bouchés par les réminiscences d'autres hommes morts depuis des lustres.
« On devrait prendre un verre un jour et parler du bon vieux temps. Mon gars, ne compte pas sur moi si je te vois le premier. Mais le dire n'engage à rien. »
Ce que Matt gardait en mémoire de ce voyage était bizarrement déplaisant, comme le souvenir d'une maladie mortelle, ce qui avait quelque chose d'une offense à la logique. Cela dit, le jeune homme avait bel et bien été malade. Un autre souvenir peu agréable.
« On n'aura jamais de meilleure occasion, mon gars !»
lança joyeusement Domon, en passant un bras lourdement musclé autour des épaules de Matt. Lui faisant faire demi-tour, il l'entraîna vers la vagabonde. Sauf à se battre, Matt n'avait aucun moyen de se défiler. Pour passer inaperçu, une bagarre de rue n'était pas l'idéal. De plus, face à un tel colosse, la victoire n'était pas garantie. Sous la graisse, Domon avait de sacrés muscles. En outre, boire un coup n'engageait vraiment à rien. Ce Domon n'était-il pas plus ou moins un contrebandier ? Dans ce cas, il devait connaître quelques moyens de sortir discrètement des boudards. À condition de l'interroger subtilement, ce type pouvait être une mine d'informations, surtout après pas mal de vin. Une belle bourse gonflait la poche de Matt. La vider pour saouler Domon ne lui posait aucun problème. Et l'alcool était bien connu pour délier les langues. Entraînant toujours Matt, Domon entra dans l'auberge puis traversa la salle commune, en saluant des membres du sang et des officiers qui ne daignèrent pas lui répondre. Au lieu d'entrer dans les cuisines, où Enid leur aurait sans doute accordé un banc dans un coin, le capitaine s'engagea dans l'escalier. Pour prendre son manteau et sa veste, Matt le crut, jusqu'à ce que Domon le pousse dans une chambre. Là, malgré une bonne flambée dans la cheminée, le jeune homme sentit son sang se glacer. Après avoir fermé la porte, Domon se campa devant, les bras croisés.
« Je te présente Dame Egeanin Tamarat, capitaine du Vert. Très cher, lui, c'est Matt Domon. »
Assise sur une chaise au dossier rembourré, le dos bien droit, Egeanin portait une jupe plissée jaune clair et une tunique imprimée. Matt la remit au premier coup d'œil. Une femme dure comme de l'acier, avec le même regard d'oiseau de proie que Tailine. Sauf qu'elle, ce n'était sûrement pas des baisers qu'elle cherchait. Sur ses mains fines, des cales d'escrimeuse en disaient long sur son passé. Direct, elle ne laissa pas à Matt le loisir de demander à quoi rimait tout ça.
« Selon mon Sojin, le danger est pour toi un vieux compagnon, »
dit-elle, son phrasé séanchanien traînant, n'empêchant pas sa voix de vibrer d'autorité.
« Je cherche des hommes de ta trempe pour former un équipage. » Et je paie en pièces d'or, pas d'argent. Si tu connais des gars comme toi, je les engagerai. Mais ils devront tenir leur langue. Mes affaires sont mes affaires. Bail a mentionné 2 autres noms, Tom Merilyn et Julin Sandar. S'ils sont à Eboudar, leurs compétences m'intéressent. Ils me connaissent et savent que je suis digne de confiance. Pour toi aussi, maître Cotton.
Matt se laissa tomber sur le deuxième siège de la chambre. Même en présence d'un membre du sang inférieur, comme la coupe au bol et les auriculaires vernis en verre des Ganines l'indiquaient, il n'était pas censé s'asseoir. Mais il avait besoin de réfléchir.
« Vous avez un navire ?»
demanda-t-il pour gagner du temps. La Seanchanienne se rembrunit. Quand on posait une question à un membre du sang, il fallait y mettre les formes. Domon grogna et secoua la tête. Un moment, Egeanine parut encore plus mécontente. Puis elle se détendit. Sans cesser de foudroyer Matt du regard, cependant. Se levant, elle plaqua les poings sur ses hanches et dévisagea le jeune homme.
« J'aurai un bateau d'ici à la fin du printemps, au plus tard, quand mon or aura été rapatrié de Cantorine. »
Encore raté. De toute façon, faire évader deux Aes Sedai sur le navire d'une Céane Chanienne n'aurait pas été une très bonne idée.
« D'où connaissez-vous Tom et Julien ?»
Domon pouvait avoir parlé du trou vert à la Céane Chanienne, pas du pisteur de voleurs.
« Tu poses trop de questions, »
dit Egeanine en se retournant.
« Tu ne me serviras à rien, j'en ai peur. Bale, flanque-le dehors. »
Domon ne bougea pas d'un pouce.
« Dis-lui !»
s'écria-t-il.
« Tôt ou tard, il faudra qu'il sache tout. Sinon, il te mettra encore plus en danger. Dis-lui !»
Même pour un saut de jean, Domon n'y allait pas avec le dos de la cuillère. En principe, les Céanchaniens exigeaient que les larbins restent à leur place. Pas que les larbins, d'ailleurs. Et Geanine devait être moins stricte qu'elle en avait l'air. Pourtant, elle foudroya du regard les deux hommes, comme si elle n'était pas du genre à supporter les fantaisies. Mais elle laissa assez vite tomber le masque.
Tom et Julien, je les ai un peu aidés à Tanchico. Comme les deux femmes qui étaient avec eux, Elaine Trakand et Nineveh Almehara.
La Céane Chanienne guetta la réaction de Matt. Connaissait-il ces noms? Matt sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Aucun rapport avec la douleur, cependant. Plutôt ce qu'on éprouve en voyant un cheval sur lequel on a misé, débouler en tête dans la dernière ligne droite, mais avec une meute de concurrents à ses trousses. Pourquoi Nineveh et Elaine étaient-elles allées à Tanchico? Et comment avait-elle pu avoir besoin de l'aide d'une Céane Chanienne, en l'obtenant en plus? Tom et Julien étaient restés muets sur le sujet. De toute façon, ça n'était pas pertinent. Egeanine voulait des gars capables de garder un secret et de braver le danger. Donc, elle était dans une situation périlleuse. Mais qui pouvait menacer un membre du sang, à part
« Les chercheurs collent à vos... à tes basques, c'est ça ?»
Egeanine releva la tête et sa main droite vola vers la poignée d'une épée qu'elle ne portait pas. Les yeux rivés sur Matt, Domon gonfla ses impressionnants biceps. Désormais, il n'avait plus l'air d'un larbin, mais d'un type très dangereux, et assez déterminé pour que Matt ne soit plus sûr du tout de sortir vivant de cette chambre.
« Si tu veux fuir les chercheurs, je peux t'aider, »
dit Matt.
« Pour ça, tu dois gagner un pays que les Sanchaniens ne contrôlent pas. Sinon, les chercheurs finiront par te trouver. Le mieux, c'est de filer le plus tôt possible. Ton or ne vaut pas ta vie, et tu pourras en gagner après. À condition que les chercheurs ne te coincent pas. Selon Tom, il s'agite beaucoup ces temps-ci. Du genre faire chauffer leur fer. »
Un moment, Egeanine dévisagea Matt en silence. Puis elle échangea un long regard avec Domon.
« Partir aussitôt que possible serait peut-être bien. »
soupira-t-elle. Un moment de faiblesse. Le visage dur, elle reprit d'un ton très ferme.
« Les chercheurs ne m'empêcheront pas de quitter la ville. En revanche, ils me suivront pour trouver quelque chose qui les intéresse bien plus que moi. Ils ne me lâcheront pas. Et tant que je serai dans un pays contrôlé par les Riagel, ils pourront m'arrêter. Ce qu'ils ne manqueront pas de faire, si je m'approche d'une zone encore libre. C'est là que j'aurai besoin des compétences de ton ami Tom, Matt Cotton. Au moment où je devrais disparaître de la vue des chercheurs. Si je n'ai pas encore reçu l'or de Cantorine, j'en ai assez pour vous payer tous grassement. N'en doute pas un instant, Maître Cotton.
Appelle-moi Matt,
fit le jeune homme avec son plus beau sourire. Même les durs à cuire fondaient quand il leur faisait ce coup-là. Et si Egeanine ne le montra pas, en fait elle se rembrunit, il ne douta pas d'avoir mis en plein dans le mille.
Je sais comment te faire disparaître maintenant. Inutile d'attendre. D'ailleurs, les chercheurs pourraient décider de t'arrêter demain.
Encore un coup au but. Egeanine ne broncha pas, ce n'était pas le genre de la maison, mais ne passa pas très loin d'acquiescer.
Il y a cependant une chose, Egeanine.
Tout ça pouvait lui sauter à la figure, comme un des feux d'artifice d'Aludra. Mais Matt n'hésita pas. Parfois, il fallait jeter les dés et croiser les doigts.
Je n'ai pas besoin d'or. Mais il me faut 3 soldats capables de tenir leur langue. Tu peux me fournir ça ?
Après une petite éternité, Egeanine hocha la tête. Intérieurement, Matt eut un grand sourire. Son cheval venait d'arriver premier.
« Domon,
lâcha Tom, les dents serrées sur le tuyau de sa pipe. Étendu sur son lit, un oreiller plié en deux sous la tête, il semblait étudier avec intérêt le nuage de fumée bleue qui flottait dans la chambre.
« Egeanine, devenu membre du sang,
ajouta Julien, assis au bord de son lit, la pipe au bec.
« Je ne sais pas si j'aime beaucoup ça.
Dois-je comprendre qu'on ne peut pas se fier à eux ?
Demanda Matt. D'un index un peu trop enthousiaste, il tapota le tabac brûlant dans le fourneau de sa pipe, puis lâcha un juron et porta le doigt à sa bouche pour humidifier la brûlure. Comme d'habitude, il avait dû se contenter du tabouret, mais pour une fois, ça ne le dérangeait pas. Traiter avec Egeanin lui avait pris une petite partie de l'après-midi. Mais Tom n'était pas revenu au palais avant la tombée de la nuit, et Julien avait tardé encore plus. Et aucun des deux hommes ne semblait ravi par ces nouvelles. Sans enthousiasme, Tom avait juste annoncé qu'il avait enfin pu voir un des sceaux enregistré par la garde. Julien, lui, se rembrunissait chaque fois qu'il jetait un coup d'œil au ballot oublié dans un coin de la pièce. Bon, il n'avait plus besoin de robe de soldat. Une raison pour faire la tête ?
Croyez-moi, tous les deux, ils ont une peur bleue des chercheurs.
Reprit Matt, quand son index ne lui fit plus mal. C'était peut-être un peu exagéré comme expression, mais il n'en menait pas large.
Du sang ou pas, Egeanine n'a pas tiqué, quand je lui ai dit pourquoi il nous faut des soldats. Simplement, elle a précisé en connaître trois qui marcheront dans le coup. Dès demain, en plus de tout.
Une femme d'honneur, cette Egeanine.
Fit Tom entre deux ronds de fumée.
Étrange, c'est vrai. Mais c'est une Séan Chanienne. Elaine l'a prise en sympathie. Et même Nineveh a surmonté ses préjugés. Leur relation était réciproque, tu sais. Même si elle les prenait pour des Aes Sedai. À Tanchico, elle nous a beaucoup aidés. Parce qu'elle est rudement compétente. Je donnerais cher pour savoir comment elle a accédé au sang. Cela dit, je la crois fiable. Pareil pour Damon. Un type intéressant.
Un contrebandier,
marmonna Julien.
Et maintenant, il appartient à cette femme. Mais un Sojin n'est pas un esclave. Certains dictent leur comportement aux membres du sang.
Tom leva un sourcil à l'intention de son compagnon, qui haussa les épaules.
Oui, je suppose qu'il est digne de confiance. Pour un contrebandier.
Matt eut un soupir agacé. Pour se montrer si contrariant, ces deux-là devaient être jaloux. Mais lui, il était un Taveren. Et ils allaient devoir vivre avec ça.
Donc,
récapitula-t-il,
on fiche le camp demain soir. La seule modification au plan, c'est que nous avons trois soldats et une femme du sang pour nous aider à franchir les portes.
Ces soldats vont faire sortir trois Aes Sedai, revenir ici et ne jamais songer à donner l'alerte ?
Julien soupira.
Un jour, alors que Rand Altor était à Théar, j'ai vu une pièce atterrir sur la tranche 5 fois de suite. Finalement, on est parti en la laissant sur la table. La preuve que tout peut arriver, j'imagine.
Julien !
Grogna Matt.
Ou tu leur fais confiance, ou tu te méfies d'eux.
De nouveau, le pisteur de voleurs regarda le ballot. Horripilé, Matt secoua la tête.
Tom, qu'ont-ils fait pour vous aider à Tanchico ? Par le sang et les cendres ! Cessez de me regarder avec vos grands yeux bovins. Vous savez, ils savent, et il faut que je sache aussi.
Nineveh nous a dit de n'en parler à personne,
déclara Julien, comme si c'était important.
Elaine aussi. Nous avons promis, prêté serment en quelque sorte.
Sur son oreiller, Tom secoua la tête.
Parfois, nécessité fait loi, Julien. Et non, ce n'était pas un serment.
Le trouvère exhala 3 ronds de fumée parfaits.
Matt, ils nous ont aidés à nous approprier et à mettre hors circuit une sorte d'Adam destinée aux hommes. Si j'ai bien compris, la Janoire compte à l'utiliser sur Rand. Vous comprenez pourquoi Elaine et Nineveh nous ont demandé de garder le silence. S'il devenait notoire que de tels artefacts existent, des histoires délirantes se répandraient partout.
Qui se soucie des histoires ?
Un Adam destiné aux hommes ? Si la Janoire avait mis ce truc autour du cou de Rand, ou si les Séan Chaniens... Les couleurs revenant à l'attaque, Matt se força à ne plus penser à Rand.
Les histoires ne tueront... personne.
Pas de couleurs. Rien à craindre tant qu'il ne pensait pas à... Et voilà, encore des couleurs.
C'est faux, Matt.
Dit Tom.
Les histoires ont du pouvoir. Les récits des trouvères, les balades des bardes et les rumeurs, même combat. Ces fictions éveillent les passions et changent la vision du monde des gens. Aujourd'hui, j'ai entendu un homme dire que Rand a juré fidélité à Elaïda et qu'il est à la Tour Blanche. Ce type y croyait dur comme fer, Matt. Que se passera-t-il si beaucoup de Théariens y croient aussi, Les Théariens abominent les Aes Sedai. Pas vrai, Julien ?
Certains, oui. Enfin, presque tous, c'est vrai.
Mais très peu d'entre nous ont rencontré des sœurs, enfin, en le sachant.
Avec la loi qui leur interdisait de canaliser, très peu d'Aes Sedai venaient chez nous, et sans crier leur identité sur tous les toits.
Ce n'est pas pertinent, très cher Théarien, ami des Aes Sedai. Je dirais même que ça renforce mes arguments. Les Théariens soutiennent Rand, les nobles en tout cas, parce qu'ils craignent son retour. Mais s'ils pensent que la Tour Blanche le retient, donc qu'il ne reviendra pas, et s'ils le prennent pour un pantin de la Tour, ça leur fera une raison de plus de le lâcher. Si assez de Théariens croient ses fadaises, Rand aura tout aussi bien fait de quitter Théar, après avoir arraché Kalandor de la pierre. Ce n'est qu'une rumeur, et je n'ai parlé que de Théar, mais elle pourrait faire des dégâts aux Kaerriennes, en Ilian et partout ailleurs. Dans un monde où évolue le dragon réincarné et des achamans, j'ignore quel genre de récit peut faire naître un Adam pour homme. Et je ne veux surtout pas avoir l'occasion de le découvrir. En un sens, Matt comprit ce que voulait dire le trouvère. Un stratège désirait toujours laisser croire à ses ennemis qu'il faisait autre chose que ce qu'il faisait en réalité, ou qu'il allait ailleurs que sa véritable destination. S'il n'était pas abruti, les types d'en face tentaient de lui faire le même coup. Parfois, une telle confusion finissait par régner dans les deux camps que des événements étranges se produisaient. Des cités brûlaient alors que personne n'avait intérêt à les détruire, sauf les incendiaires qui pensaient à tort le contraire. Et des milliers de gens mouraient pour rien, ou on détruisait des récoltes, toujours sans raison. Et la famine consécutive faisait un massacre.
« Moi, je ne tiens pas à me casser la tête à cause de cet Adam. J'imagine que quelqu'un a pensé à prévenir le principal intéressé. »
Les couleurs tourbillonnèrent. Matt se demanda s'il pouvait les ignorer, voire s'y habituer. Elle disparaissait très vite et ne lui faisait aucun mal. Mais il détestait tout ce qu'il ne comprenait pas, surtout quand c'était lié au pouvoir. La tête de renard autour de son cou le protégeait du pouvoir, mais cette défense, comme sa mémoire, était constellée de trous.
« Nous ne sommes pas en rapport avec Rand, » répondit sèchement Tom.
« Si elle pense que c'est important, Nineveh et Elaine ont dû trouver un moyen de l'avertir.
Pourquoi devrait-elle le faire ?»
demanda Julin. Avec un grognement, il se pencha pour retirer une de ses bottes.
« Ce truc est au fond de la mer à présent. »
Toujours morose, il jeta la botte sur le ballot maudit.
« Vas-tu enfin nous laisser dormir cette nuit, Matt ? Demain, je doute que nous en ayons l'occasion. Et j'aime bien me reposer au moins un jour sur deux. »
Ce soir-là, Matt choisit le lit royal. Pas en souvenir du bon vieux temps. Une idée qui le fit éclater d'un rire si faux qu'il en eut le moral s'aborder. Simplement, un bon matelas de plumes et des oreillers douillets ne se refusaient pas lorsqu'on ignorait où on dormirait les jours suivants. L'ennui, c'est qu'il ne put pas fermer l'œil. Étendu dans le noir, un bras sous la tête, il tenait dans l'autre la lanière de son médaillon, prêt à le brandir si le golem se glissait dans la pièce en passant sous la porte. Mais le tueur n'avait rien à voir avec son insomnie. Dans sa tête, le plan tournait en boucle. Un bon plan, et aussi simple que possible, étant donné les circonstances. Sauf que... aucune bataille ne se déroulait selon le plan, si brillant fut-il. Les grands capitaines ne devaient pas leur réputation à leur talent de planificateur, mais au génie de l'improvisation, leur permettant de vaincre, même quand tout leur plan se cassait la figure. Du coup, quand l'aube arriva, elle trouva le jeune flambeur en train de se demander pour la centième fois ce qui pouvait mal tourner dans cette affaire.